Chapitre 60. Dolman Island, samedi 13 juin 1981. Au bout d'une semaine, Tony Harrod en avait plus que marre de se mêler aux riches et aux puissants. Ses observations lui avaient permis de constater que les riches et les puissants avaient une nette tendance à être des connards. Le dimanche précédent, Maria Chen et lui étaient arrivés à bord d'un avion privé dans un trou perdu de Géorgie nommé Meridian, l'endroit le plus étouffant et le plus infernal que Harrod ait jamais connu, pour apprendre qu'un autre avion privé allait les amener sur l'île. À moins qu'ils ne préfèrent s'y rendre en bateau. Harrod ne s'était même pas posé la question. Les 55 minutes de traversée avaient été plutôt agitées. Mais même lorsqu'il s'était penché sur la rambarde pour vomir sa vodka and tonic et son déjeuner, Harrod n'avait pas regretté d'avoir troqué un vol de 8 minutes contre une séance de montagne russe en pleine mer. La marina de Barent, ou son port de plaisance privée, peu importait, était le cabanon le plus impressionnant que Harrod ait jamais vu. C'était un bâtiment haut de 3 étages, aux murs étouffés par les cyprès gris, dont l'intérieur était aussi vaste et aussi majestueux que celui d'une cathédrale. Impression renforcée par les vitraux, projetant des pinceaux de lumière colorée sur les vaguelettes et sur les hors-bords au cuivre luisant et au pavillon en berne. Ce lieu dissimulé aux yeux du monde était le plus ostentatoire qu'il lui ait été donné de visiter. Les femmes n'étaient pas admises sur l'île pendant la semaine du camp d'été. Harrod le savait déjà, mais il râla quand même en se voyant obligé de perdre un quart d'heure pour déposer Maria Chen sur le yacht de Barent, un bâtiment aux lignes aérodynamiques, d'un blanc étincelant et de la taille d'un terrain de football, abritant dans sa coque tout le matériel de communication indispensable à Barent. Pour la 1000e fois, il se fit la réflexion que C. Arnold Barent n'aimait pas être tenu à l'écart des affaires du monde. Un hélicoptère au fuselage futuriste était posé sur la dunette, au repos, mais de toute évidence prêt à décoller au moindre coup de sifflet de son maître. La mer était envahie de bateaux, fins hors-bord remplis de gardes armés de M16, bateaux radars trapus aux antennes tournant en permanence, yachts privés flanqués de navires de surveillance en provenance d'une 12aine de pays, et, visible à présent qu'il dépassait la pointe de l'île pour se diriger vers le port, un cuirassé de la marine américaine voguant à 1,5 km du rivage. C'était un bâtiment impressionnant. Un requin à la peau gris ardoise qui fonçait sur eux à pleine vitesse, toute antenne et tout pavillon dehors, tel un lévrier affamé fondant sur un lapin impuissant.
« Qu'est-ce que c'est que ce truc, bordel ?» demanda Harrod au pilote.
L'homme au maillot rayé sourit, révélant des dents étincelantes qui faisaient ressortir son teint hâlé.
« C'est l'USS Richard S. Edwards, monsieur, un cuirassé de classe Forrest Sherman. Il croise ici chaque année à l'occasion du camp d'été de l'Heritage West Foundation pour assurer la protection des invités étrangers et des dignitaires américains.
« C'est toujours le même bateau ?»«
Le même navire, oui, monsieur. En théorie, il effectue tous les ans des manœuvres de blocus autour de l'île. » Le cuirassé avait viré de bord, et Harrod aperçut le nombre 950 peint en blanc sur sa coque.
« Qu'est-ce que c'est que cette boîte, là-haut, près du canon arrière ou je ne sais quoi ?»«
Un Asrock, monsieur, » dit le pilote environ à bâbord. « Modifié pour l'ASW par retrait du MK42 5 pouces et de deux MK33 3 pouces. »«
Oh !»
Harrod s'accrocha à la rambarde, sentant l'écume se mêler à la sueur sur son visage livide.
« On est bientôt arrivé !»
Un chariot électrique de luxe, conduit par un homme vêtu d'un blazer bleu et d'un pantalon de toile gris, amena Harrod au manoir. Live Oak Lane était une large allée de gazon, aussi bien entretenue qu'un terrain de golf, bordée de chênes massifs, dont les murailles jumelles semblaient se fondre à l'horizon, et dont les énormes branches s'entremêlaient à une hauteur de 30 mètres, formant une voûte mouvante de feuilles et de lumière, à travers laquelle on apercevait des bribes de ciel nuageux, dont les couleurs pastel contrastaient avec le vert des frondaisons. Pendant qu'il glissait silencieusement le long de ce tunnel, formé par des arbres plus anciens que les États-Unis, Les cellules photoélectriques perçurent l'approche du crépuscule et allumèrent une théorie de projecteurs tamisés et de lanternes japonaises, dissimulées parmi les branchages, le lierre et les épaisses racines, créant une illusion de forêt magique, de bois enchantés vibrant de lumière et de musique, des haut-parleurs soigneusement dissimulés diffusant dans l'air vespéral la mélodie cristalline d'une sonate pour flûte. Un peu plus loin, parmi les chênes verts, des centaines de minuscules carillons éoliens ajoutèrent leurs notes éthérées à la musique lorsque la brise venue de l'océan fit frémir le feuillage.
« Vos arbres sont foutrement grands !»
dit Harod, alors qu'ils arrivaient à 400 mètres de l'immense jardin en terrasse, situé derrière la façade nord du manoir.
« Oui, monsieur, » dit le chauffeur qui poursuivit sa route.
C. Arnold Barent n'était pas là pour l'accueillir. Mais le révérend Jimmy Wayne Sutter apparut devant lui, le visage cramoisi, un grand verre de bourbon à la main. L'évangéliste traversa un immense hall désert carrelé de noir et blanc qui évoqua à Harod la cathédrale de Chartres, un lieu qu'il n'avait pourtant jamais visité.
« Anthony, mon garçon !» rugit Sutter. « Bienvenue au camp d'été !»
L'écho de sa voix résonna pendant plusieurs secondes. Harod leva la tête et resta bouche bée comme un touriste, contemplant l'immense espace bordé de mezzanines et de balcons, de lofts et de couloirs entreaperçus, dominé à 5 étages de hauteur par une voûte que soutenaient des chevrons délicatement ouvragés et un labyrinthe de poutres étincelantes. Le toit lambrissé de cyprès et d'acajou était orné d'une verrière en vitrail, filtrant une lumière rougeâtre qui donnait une nuance de sang aux couleurs sombres du bois, de plusieurs lucarnes et d'une chaîne massive qui supportait un chandelier si robuste qu'un régiment de fantômes de l'opéra aurait pu s'y balancer sans le déloger.
« La vache !» dit Harod. « Si c'est ça l'entrée de service, je veux voir l'entrée principale. »
Sutter fronça les sourcils d'un air réprobateur, pendant qu'un domestique en blazer bleu et pantalon gris traversait l'immensité carrelée pour attraper le sac de voyage de Harod et se mettre à sa disposition.
« Préférez-vous loger ici ou dans l'un des chalets ?» demanda Sutter.
« Un des chalets ? Vous voulez dire un des bungalows ?»«
Oui, si l'on peut qualifier de bungalow un cottage 5 étoiles où sont servis des repas de chez Maxim's. La majorité des invités préfèrent y loger. C'est un camp d'été, après tout. »«
Ouais, ah, laissez tomber. Je prendrai la chambre la plus confortable de cette baraque. J'ai déjà fait mon temps chez les scouts. »
Sutter fit un signe au domestique.
« La suite, Buchanan, Maxwell. Je vous montrerai le chemin dans une minute, Anthony. Accompagnez-moi au bar. »
Ils se dirigèrent vers une petite pièce lambrissée d'acajou pendant que le valet empruntait l'ascenseur pour gagner les étages supérieurs. Harod se servit une vodka bien tassée.
« Ne me dites pas que cette baraque a été construite au XVIIIe siècle. Elle est trop grande, bordel !»
L'édifice érigé par le pasteur Van der Hoof était déjà impressionnant pour son époque, dit Sutter. Les propriétaires successifs du manoir l'ont encore agrandi.
Alors où est passé tout le monde?
Les invités de moindre importance sont en train d'arriver. Les princes, les potentats, les anciens premiers ministres et les émirs du pétrole nous rejoindront demain matin à 11 heures pour le brunch d'ouverture. Ce n'est que mercredi que nous apercevrons notre premier ex-président.
Youpi!
Où sont Barent et Kepler?
Joseph nous rejoindra plus tard dans la soirée. Notre hôte n'arrivera que demain.
Harod se rappela la dernière vision qu'il avait eue de Maria Chen, accoudée au bastingage du yacht. Kepler lui avait dit que toutes les assistantes, secrétaires, maîtresses et épouses, qui n'avaient pas pu être larguées avant d'arriver sur l'île, étaient les bienvenues à bord de l'Antoinette, pendant que leurs seigneurs et maîtres se déboutonnaient sur Dolman Island.
« Est-ce que Barent est à bord de son bateau ?»
Le prédicateur des ondes écarta les bras.
« Seul le seigneur et les pilotes de Christian savent où il se trouve à un moment donné. Les 12 prochains jours constituent la seule période de l'année où un ami, ou un adversaire, pourrait le localiser avec certitude. »
Harod jura et avala une gorgée d'alcool.
« Ça n'aiderait pas cet hypothétique adversaire ?»
Vous avez vu ce nom de dieu de cuirassé en arrivant ?»«
Anthony, » avertit Sutter, « je vous ai déjà dit de ne pas offenser le nom du Seigneur. »
« À quoi s'attendent-ils ? Un débarquement des marines russes ?»
Sutter se resservit un bourbon.
« Vous ne croyez pas si bien dire, Anthony.
Il y a quelques années, un chalutier russe est venu rôder à quelques encablures de la plage. Il avait quitté son poste habituel au large de Cap Canaveral. Inutile de vous dire que, comme la plupart des chalutiers russes naviguant au large des côtes américaines, celui-ci était aussi truffé de récepteurs radio que l'immeuble voisin de l'ambassade des États-Unis à Moscou.
Qu'est-ce qu'il pouvait donc capter à plus d'un kilomètre de distance ?
Sutter gloussa.
Seuls les Russes et leur antéchrist pourraient vous le dire, j'imagine. Mais cela a troublé nos invités et inquiété frère Christian, d'où le gros chien méchant que vous avez vu patrouiller aux alentours.
Tu parles d'un chien méchant ?
Est-ce que tout ce dispositif de sécurité revient en deuxième semaine ?
Oh non ! Ce qui se passe durant la période de chasse est exclusivement réservé à notre regard.
Harold regarda fixement le prêtre aux joues rouges.
Jimmy, pensez-vous que Willy va se pointer le prochain week-end ?
Le révérend Jimmy Wayne Sutter redressa vivement la tête, ses yeux porcins plus brillants que jamais.
« Oh oui, Anthony. Il ne fait aucun doute que Mr. Borden sera présent à l'heure convenue. »«
Comment le savez-vous ? »
Sutter eut un sourire béat, leva son verre et dit à voix basse.
« C'est écrit dans l'Apocalypse, Anthony. »
Tout cela a fait l'objet de prophéties écrites il y a plusieurs millénaires. Nous n'accomplissons rien qui n'ait été gravé dans les corridors du temps par un sculpteur qui voit le grain de la pierre avec infiniment plus d'acuité que nos pauvres yeux.
Vraiment ?
Oui, Anthony, en vérité.
Vous pouvez parier votre cul de païen là-dessus.
Les lèvres minces de Harold dessinèrent un sourire.
Je crois que c'est déjà fait, Jimmy.
« Je ne pense pas être prêt pour la semaine qui va venir. »«
Elle n'a aucune importance, » dit Sutter en fermant les yeux et en collant le verre glacé contre sa joue.
« Cette semaine n'est qu'un simple prélude, Anthony. Un simple prélude. »
Cette semaine de prélude parut interminable à Harold. Il se mêla à des hommes dont il avait maintes fois vu la photo dans Time et dans Newsweek et découvrit que... si l'on acceptait l'aura de puissance qui émanait d'eux comme l'odeur de la sueur d'un sportif de haut niveau, ces hommes étaient visiblement humains, fréquemment faillibles et le plus souvent stupides, lorsqu'ils tentaient frénétiquement d'échapper au conseil d'administration, réunions au sommet et congrès planétaires qui servaient de barreaux à leur cage dorée. Le soir du mercredi 10 juin, Harold se retrouva assis sur la cinquième rangée de l'amphithéâtre, en train de regarder un vice-président de la Banque mondiale, le prince héritier du troisième pays exportateur de pétrole le plus riche de la planète, un ancien président des États-Unis et son ancien secrétaire d'État, se livrer à une danse hawaïenne, coiffée de balayettes en guise de perruque, portant des noix de coco évidées en guise de sein et vêtue de feuilles de palmier en guise de jupe, pendant que 85 hommes parmi les plus puissants de l'Occident sifflaient, hurlaient, bref, se conduisaient comme des étudiants lors de leur premier monôme. Harold contempla le feu de joie et pensa au montage provisoire de Traite des Blanches qui attendait depuis 3 semaines que l'on compose sa bande-son. Le compositeur et chef d'orchestre était payé $3,000 par jour pour se tourner les pouces au Beverly Hilton en attendant de diriger un orchestre symphonique qui mettrait en boîte une musique absolument identique à celle qu'il avait composée pour ses 6 précédents films. Une pâtée de violons romantiques et de cuivres héroïques que le son Dolby rendrait encore plus indigeste. Le mardi et le jeudi, Harold était allé voir Maria Chen sur l'Antoinette. Elle lui avait fait l'amour dans sa somptueuse chambre au silence de soie et de lambris. Puis il lui avait parlé avant de regagner l'île pour les festivités de la soirée.
« Qu'est-ce que tu fais de tes journées ? » avait-il demandé.
« Je lis. Je travaille sur le traitement pour Orion. « Je réponds au courrier en retard. Je prends le soleil. »«
Tu as vu Barent ?»«
Pas une seule fois. Il n'est pas sur l'île ?»«
Si, je l'ai aperçu 2 ou 3 fois. Il a toute l'aile ouest du manoir à sa disposition. Lui est son favori de la journée. »«
Je me demandais seulement s'il venait parfois faire un tour ici.
Tu es inquiet ?
Maria Chen roula sur elle-même pour s'allonger sur le dos et écarta une mèche de cheveux noirs de sa joue.
Ou tu es jaloux ?
Mon cul !
Harold, toujours en tenue d'Adam, se leva et se dirigea vers l'armoire à liqueurs.
Je préférerais encore qu'il te baise. On aurait au moins une chance de savoir ce qui se trame dans le coin.
Maria Chen se leva avec souplesse, se dirigea vers Harold qui lui tournait le dos, et lui passa les bras autour du corps.
« Tony, tu es un menteur !»
Harold se retourna furieux. Elle se serra un peu plus contre lui et lui soupesa doucement les testicules de la main gauche.
« Jamais tu n'accepteras que quelqu'un s'approche de moi. Jamais !»«
Conneries ! Tu dis des conneries !»«
Non ?»
murmura Maria Chen en lui caressant le cou du bout des lèvres.
« Je t'aime. Et toi aussi, tu m'aimes. »
« Personne ne m'aime !»
Harold aurait voulu rire en prononçant cette réplique, mais il ne put émettre qu'un hoquet étouffé.
« Je t'aime !» dit Maria Chen. « Et tu m'aimes aussi, Tony ?»
Il l'écarta, l'atteint à bout de bras et lui lança un regard furibond.
« Comment peux-tu dire une chose pareille ?»«
Parce que c'est vrai.
Pourquoi ?»«
Pourquoi est-ce vrai ?»«
Non, pourquoi nous aimons-nous »
« Parce qu'il le faut, »
dit Maria Chen en le conduisant vers l'immense lit moelleux. Plus tard, écoutant le clapotis de l'eau et une foule de bruits nautiques qu'il ne pouvait identifier, allongé tout contre Maria Chen, une main posée sur son sein droit, les yeux fermés, Harold s'aperçut que peut-être pour la première fois depuis qu'il était assez grand pour penser, il ne redoutait absolument rien.
L'ex-président partit le samedi après le festin tropical de midi, et à 7 heures du soir, il ne restait plus sur l'île que des bureaucrates de grade moyen ou inférieur, des Cassius et des Yago, en veste en peau de requin et jeans signé Ralph Lauren.
Harold pensa que le moment était bien choisi pour regagner le continent.
« La chasse commence demain, » dit Sutter.
« Vous ne voulez sûrement pas manquer les festivités. »«
Je ne veux pas rater l'arrivée de Willy. » Barent est-il toujours sûr de sa venue ?
Il arrivera avant le coucher du soleil. Point final. Joseph répugne à révéler la nature de ses sources. Peut-être en fait-il un peu trop.
J'ai l'impression que cela irrite frère Christian.
C'est Kepler que ça regarde.
Harold posa le pied sur le pont du petit yacht.
Êtes-vous sûr d'avoir besoin de ces deux pions supplémentaires ? Demanda le révérend Sutter.
« Nous en avons plein dans l'enclos, tous jeunes, forts et sains.
La plupart viennent de mon centre de réhabilitation pour fugueurs. Et il y a un grand choix de femmes pour vous, Anthony. »«
Je tiens à employer deux des miens. Je serai de retour durant la nuit, demain matin ou plus tard. »«
Bien, » dit Sutter, une étrange lueur dans l'œil. « Je ne voudrais pas que vous ratiez le début. Cette année risque d'être... » exceptionnel.
Harold lui fit adieu de la tête, puis le moteur du yacht se mit à rugir et ils s'éloignèrent lentement du port, accélérant une fois atteints les hauts fonds. Le yacht de Barent était le plus grand des bâtiments restants, exception faite des navires radars et du cuirassé qui se préparaient à prendre le large. Comme d'habitude, un hors-bord plein de gardes armés les intercepta, vérifia l'identité de Harold, et les suivit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'Antoinette. Maria Chen attendait près de l'échelle de la poupe, un sac de voyage à la main. Leur voyage nocturne fut moins agité que leur première traversée. Harold avait demandé qu'on mette une voiture à sa disposition, et une petite Mercedes fournie par l'Heritage West Foundation les attendait derrière la marina de Barent. Harold prit le volant, empruntant la route 17 jusqu'à South Newport, et prenant ensuite l'I-95 pour rejoindre Savannah.
« Pourquoi Savannah ?» demanda Maria Chen.
« On ne me l'a pas dit. Le type que j'ai eu au téléphone s'est contenté de me dire où je devais me garer, près d'un canal dans les faubourgs de la ville. »«
Et tu penses que c'est l'homme qui t'a kidnappé ?»«
Ouais, j'en suis sûr. Il a le même accent. »«
Tu penses toujours que c'était l'œuvre de Willy ?»
Harold roula en silence une bonne minute.
« Ouais, »
dit-il finalement. « C'est la seule hypothèse sensée. Barent et les autres ont déjà la possibilité de glisser des sujets conditionnés parmi le gibier s'ils le souhaitent. Willy a besoin d'un atout dans sa manche.
« Es-tu prêt à faire ce qu'il te demande ? Tu te sens toujours loyal envers lui. »
« Rien à foutre de la loyauté. Barent a envoyé Haynes chez moi pour te passer à tabac, uniquement pour me montrer qui était le maître. Personne n'a le droit de me traiter de cette façon. Si c'est un coup fourré de Willy, je m'en fous, qu'il se débrouille. »
« Ce n'est pas dangereux. »
« Les pions, tu veux dire ? Je vois pas comment ils pourraient être dangereux. On vérifiera qu'ils ne sont pas armés. » Et une fois qu'ils seront sur l'île, ils n'ont aucune chance de pouvoir foutre le bordel. Même le vainqueur de ces foutus Jeux Olympiques du Gore se retrouvera 6 pieds sous terre dans un ancien cimetière d'esclaves, quelque part dans l'île sous les palétuviers.
Quel est le but de Willy, alors?
Je n'en sais foutre rien, dit Harrod en sortant à l'échangeur de l'I-16. Notre rôle est de suivre les événements et d'y survivre. Au fait, tu as apporté le Browning?
Maria Chen sortit l'automatique de son sac à main et le tendit à Harrod. Conduisant d'une main, il sortit le chargeur de la crosse, l'examina et le remit en place en appuyant l'arme sur sa cuisse. Il la glissa à sa ceinture, la dissimulant sous les pans de sa chemise hawaïenne.
« Je déteste les armes à feu, » dit Maria Chen d'une voix neutre.
« Moi aussi. Mais il y a des gens que je déteste encore plus. » Et l'un d'eux est un salopard à l'accent polac coiffé d'un passe-montagne. Si c'est lui que Willy a l'intention d'expédier sur l'île, je vais avoir du mal à ne pas lui faire sauter la tête avant d'embarquer.
Ça ne ferait pas plaisir à Willy.
Harrod hocha la tête, tournant pour s'engager sur une route secondaire qui conduisait à une jetée abandonnée, située le long du canal de Savannah à Ogeechee. Un break les y attendait. Harrod se gara à 20 mètres de distance, comme convenu, et fit un appel de phare. Un homme et une femme descendirent du break et se dirigèrent vers lui.
« On est marre de m'inquiéter de ce qui ferait plaisir à Willy, à Barent ou à quiconque, »
dit Harrod en serrant les dents. Il descendit de voiture et dégaina l'automatique. Maria Chen ouvrit son sac de voyage et en sortit des chaînes et des menottes. Lorsque l'homme et la femme ne furent plus qu'à 5 ou 6 mètres d'eux, Harrod se pencha vers sa maîtresse et sourit.
Il est grand temps qu'il se soucie de ce qui ferait plaisir à Tony Harrod.
Il leva son arme et visa le front d'un homme mal rasé aux longs cheveux grisonnants. L'homme fit halte, regarda fixement le canon du pistolet de Harrod et ajusta ses lunettes du bout de l'index.